Bonjour, c'est l'appel de la forêt sur Radio Vassivière avec Laurent
et Hélène.
Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, l'appel de la forêt, c'est la première. Et donc, c'est une émission qui accueille tout le monde, tous les amoureux de la forêt, tous ceux qui veulent en parler pour que la forêt s'exprime dans toute sa diversité.
Oui, l'idée, c'est de réunir tous les passionnés, tous les travailleurs ou toutes les futurs travailleurs et travailleuses de la forêt à parler de leur rapport à la forêt, de ce qu'ils y trouvent ou de ce qu'ils y trouvent pas encore ou de ce qu'ils aimeraient y trouver et que la forêt voilà, soit plus présente dans nos discussions. La forêt comme partenaire de vie, la forêt comme paysage vécu et un paysage qui mérite qu'on en prenne soin.
En effet. Et au-delà donc du soin, on sait aussi que c'est une question politique. Donc il y aura aussi bien sûr des débats. On n'a pas tous la même vision de la forêt. On n'a pas tous la même culture. Et par contre, ici, à l'appel de la forêt, tout le monde a sa parole.
L'idée, c'est aussi de hisser chacun et chacune à la connaissance des différents acteurs qui se rapportent à la forêt et de pouvoir s'y rapporter nous-mêmes en connaissance de ces différentes personnes et des différentes interventions qui existent dans la forêt. Donc on ne va pas parler de la forêt en général comme d'un concept hors sol, mais bien de la forêt du territoire de la montagne Limousine, donc de la forêt qu'on côtoie au quotidien dans nos traversées du plateau de Mille Vaches.
Et donc Hélène, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment toi, d'abord d'où tu viens et qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu as envie de parler de la forêt aujourd'hui?
Alors ce que je peux commencer par dire, c'est que moi je suis actuellement une formation à l'école forestière de Mémac pour devenir élagueuse et que du coup ça va être dans les prochains temps ma manière de me rapporter à la forêt et à l'arbre en général par le travail, par la grimpe donc dans les arbres. Donc une proximité à l'arbre qui est peu commune, mais qui est très excitante et qui permet d'appréhender ces sujets-là de façon toute particulière.
Très bien. Et est-ce que tu as d'autres expériences de la forêt en tant que militante, par exemple ?
Je pense, oui, que la forêt, en tout cas, c'est quelque chose qui me donne envie de me mobiliser quand je vois la manière dont la forêt est gérée ici, d'une manière qui moi me convient pas, et alors que je pense à côté de ça qu'on a de très belles manières de gérer la forêt et de s'y rapporter, de trouver des moyens de subvenir à ses besoins qui mériteraient d'être davantage mis en avant et visibilisés pour que le plus de monde puisse s'emparer de ces manières, de ces modes de gestion alternatifs.
Très bien. Et est-ce que c'est, par exemple, ce qu'on retrouve au syndicat de la montagne Limousine, au sein du groupe Forêt, par exemple ?
Alors, en effet, le groupe Forêt du syndicat de la montagne Limousine cherche à visibiliser les modes de gestion alternatifs. Il y a toute une part du syndicat de la montagne Limousine, en tout cas, qui forme, enfin, qui dans ses projets, a pour but de former des personnes à la gestion forestière et à l'intervention en forêt, donc soit pour faire son bois de chauffage, soit pour prendre soin de la forêt qu'on pourrait avoir en propriété ou en propriété collective. Ça, c'est une part de l'action du syndicat La Montagne Limousine. Une autre part, et là, elle est plus sur le versant politique et vient un peu plus titiller les conflits qui existent avec la forêt, c'est de venir s'opposer aussi à la gestion dominante de la forêt sur le territoire et d'en relever les limites et d'essayer de faire bouger les choses pour que une gestion différente prenne sa place aussi.
Et justement, dans l'évolution de cette forêt, quelles sont pour toi les menaces les plus importantes ?
Alors, des menaces sur la forêt, il y en a plein. Elles peuvent être d'ordre, disons, climatique ou en tout cas globaux. Avec le dérèglement actuel, on voit bien ce que ça fait aux arbres. Les descentes de cimes à répétition qu'on voit ces dernières années, les sécheresses à répétition aussi. Tout ça, ça a un impact sur la biodiversité, les systèmes forestiers qui est très fort et qui va pas, qui va faire que la forêt elle va changer de visage de manière très forte dans les prochaines années et que c'est déjà en train d'arriver sur le territoire. Moi, les menaces locales que je vois, c'est la pression sur les rendements et la pression économique. Qui est mise sur la forêt. Quand j'entends que le gouvernement veut doubler la production et le rendement des forêts, et particulièrement la forêt sur le plateau de Millevaches, je me dis qu'on ne va pas dans le bon sens. Et que là, on a quelque chose à jouer parce qu'on est habitant et habitante du territoire et qu'il faut pas louper le coche et se dire que c'est maintenant qu'on peut lancer une gestion alternative de la forêt.
Donc tu penses qu'on peut lancer des initiatives intéressante, c'est lesquelles, d'après toi, quelles sont les initiatives à favoriser ?
Eh ben d'abord, multiplier la connaissance des gens sur la forêt qui les entoure. Donc, faire en sorte que les gens apprennent la forêt qui les entoure et puissent intervenir dedans comme il convient de le faire en respectant les milieux. Aussi en transformant la filière bois de manière à ce qu'elle impacte moins les milieux. Donc en fait, j'ai l'impression que ce qui est la norme actuellement devrait devenir l'exception et que l'exception qui est aujourd'hui dans les modes de gestion forestière devienne la norme.
D'accord, passer donc du mode de coupe rase à une gestion sylvicole beaucoup plus raisonnée.
Alors ça, c'est un grand débat et j'espère qu'on aura l'occasion de le mettre en débat justement dans nos émissions à venir. La coupe rase, oui, c'est un mot qu'on entend souvent surgir dans les discussions et qui est à l'origine de beaucoup de tensions actuelles. Pour moi, la coupe rase, c'est pas forcément ça qui est le gros point noir. Pour moi, le gros point noir, c'est la répétition coupe rase, replantation en monoculture, suivie d'une coupe rase dans les quelques décennies qui arrivent. Et ça, ce mode de gestion intensif, oui, pour moi, il est à totalement revoir.
D'accord, c'est une sorte de cycle infernal, on est assez voilà. D'accord là-dessus.
Donc, pour continuer la présentation... Enfin, notre présentation à tous les deux qui souhaitons mener ces émissions de l'appel de la forêt. Je te retourne les questions, Laurent. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, depuis quelle situation tu parles quand tu parles de la forêt, quelles sont tes expériences en forêt, comment tu t'y rapportes actuellement ?
Alors moi, je suis un nouvel habitant ici sur le territoire. Ça fait donc un peu plus de 2 ans et j'ai quand même toujours été sensible à la forêt en tant que citoyen, enfin en tant que promeneur, en tant qu'observateur. Dans une forêt, je me sens à l'aise. Donc c'est une expérience toujours positive quand il s'agit d'une forêt vivante. Et je sens bien la différence entre une forêt vivante et des plantations qui sont complètement artificielles. Voilà, donc c'est des expériences sensibles. J'ai suivi des différentes formations pour la gestion sylvicole. Mais pour l'instant, mon expérience, c'est celle d'une forêt comme milieu et comme espace de relation. Voilà, moi, je sens que tout le monde est proche de la forêt. Ici, dans la montagne Limousine, on ne peut pas vraiment faire exception. On vit avec elle, elle est partout. Parfois presque trop, surtout en ce qui concerne la forêt artificielle et enrésinée. Mais c'est un lieu de communication, de relation, déjà symbiotique pour la forêt en elle-même, mais aussi entre les gens. On parle champignons, on parle de chasse, on parle d'expérience propre. Voilà. Donc c'est un sentiment de partage, et évidemment donc, cette émission va favoriser les partages.
La forêt comme sentiment de partage, certes, mais il y a quand même des menaces qui pèsent sur la forêt. Tu les perçois aujourd'hui ?
Bien sûr. ça permet aussi, cette émission, elle est là aussi pour donner la parole à ceux qui souffrent de voir la forêt brutalisée. Les menaces sont un peu celles que tu as déjà listées, donc je vais pas reprendre, mais il y a bien sûr cette urgence climatique qui force un petit peu les gens à se poser des questions, mais il est difficile de se remettre en question, même si ces plantations artificielles n'ont que 50, 60, 70 ans. Elles se sont inscrites dans un mode agricole et il est difficile de sortir de cette norme-là. Mais pas impossible.
Alors là, tu nous parles de mode agricole et ensuite de forêt qui... tu ne l'as pas dit, mais c'est en sous-texte, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Et je pense que sur l'histoire de la forêt locale, c'est aussi tout un sujet d'émission à venir que je souhaite, enfin j'espère qu'on traitera.
Évidemment. Toute l'histoire, la géographie, toute l'évolution, la forêt, elle n'est pas fixe, elle pousse tout le temps ou elle est coupée. Voilà. Donc je pense que chacun a besoin d'en parler. Moi, j'ai assisté à beaucoup de débats, de cafés forêts où les gens ont quelque chose à dire. Les gens sont touchés parce qu'on coupe à leur arbre, aux arbres qu'ils ont autour d'eux, et ça les déstabilise. Hein, et voilà. Donc je crois qu'on vit avec eux, on vit avec ces arbres, et si on arrive à créer des espaces suffisamment grands de forêts vivantes, on se sentira plus vivant et en meilleure santé.
Et pour toi, pour créer ces espaces de forêts vivantes, quelles seraient les initiatives à favoriser alors ?
Il y en a beaucoup. Il y a donc d'abord les propriétaires qui ont la main sur la forêt. Hein. Moi, j'ai rencontré des propriétaires qui sont ravis d'avoir quelques hectares à laisser en libre évolution, ou du moins à faire quelques menus travaux pour du bois de chauffage. Voilà, donc ça, c'est des choses qui font plaisir, parce qu'on se dit, voilà, avec ces gens-là, on va avoir encore une forêt vivante, parce que il est vrai que les forêts artificielles telles que les plantations, elles ont toujours une épée de Damoclès, c'est-à-dire être toutes coupées pour être exploitées de façon industrielle et à bas coût. Hein. Donc voilà, donc ça c'est des choses que voilà, j'aimerais qu'on arrive à aller un petit peu au-delà de ça et donc faire en sorte que les propriétaires prennent conscience du capital qu'ils ont et donc ne pas tout dilapider au risque de nous perdre en fait.
Là tu parles de la forêt surtout vis-à-vis du propriétaire, enfin en tout cas tu nous as parlé de propriétaire forestier surtout. Mmh. Est-ce que pour toi ta vision de la forêt idéale c'est une forêt en propriété ?
Alors la propriété, elle a des vertus, c'est-à-dire qu'en fait, quand je rencontre un propriétaire forestier, il a souvent de la fierté quand même d'être propriétaire des forêts. Il a cette responsabilité parce que, bon, il produit, il y a donc des arbres qui poussent avec éventuellement du bois qui pourrait être exploité. Mais il y a tout ce système vivant qu'il a beaucoup de plaisir à rencontrer quand il habite pas loin et qui s'occupe de ces forêts. Et ça devient en fait très souvent au début un passe-temps parce que bon, on n'est pas formé. Et puis j'ai rencontré de plus en plus de gens passionnés. Donc ces propriétaires-là me donnent de l'espoir. Mais il y a la propriété privée qui ici représente à peu près les trois quarts de la surface de la montagne Limousine. Voilà, donc beaucoup à faire avec les propriétaires quand ils ne sont pas des sociétés anonymes où là c'est plus compliqué d'aller chercher le côté sensible. Hein, voilà, mais au-delà donc de cette propriété privée, il y a aussi une part de 25 à 30% de forêts publiques, domaniales, communales, où là, les traitements sont aussi assez différents. Donc un peu comme chez les propriétaires privés, il y a des exploitations très différentes. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des communes qui bannissent maintenant les coupes rases et qui instaurent, on va dire, une gestion en couvert continu qui permet à la forêt de se régénérer naturellement. Voilà. Et donc, c'est ce qui, à mon avis, le plus souhaitable. Et même quand on a une plantation uniquement de Douglas ou de résineux, on va dire. Il est possible, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des gestionnaires forestiers qui ont réussi au bout de 30, 40, 50 ans, donc ce qui est quand même un temps long pour l'être humain, mais pour la forêt, peu de choses. Finalement, on peut aussi transformer des forêts artificielles et les convertir au bout de 50, voire plus, 80 ans, en forêt naturelle. Donc c'est possible, il y a tout cet aspect de forêt de feuillus qui sont capitales pour nous, parce qu'elles s'implantent, il y a ce qu'on appelle l'accru forestier, et on n'arrivera pas à recréer des forêts de feuillus à partir de plantations humaines. C'est vraiment la nature qui fait son travail. Et mélanger donc les feuillus et les résineux me paraît être vraiment une solution d'avenir pour le territoire.
Oui, donc voilà, t'as cité déjà nombre de sujets qui pourront nous intéresser dans de futures émissions. La question de la propriété, évidemment, la question des modes de gestion, donc couvert continu, forêt mélangée, tout ça, c'est des choses que j'espère qu'on aura l'occasion de revoir et de mettre en débat avec des personnes qui sont aussi détentrices de connaissances sur ces sujets. Ces émissions à venir, ça va être aussi l'occasion pour nous d'aller à la rencontre et de prétexte, enfin d'être un, ça va être un prétexte à aller à la discussion avec tout un tas de différents acteurs et actrices de la forêt. Et est-ce que comme ça on listerait pas, on donnerait pas envie à nos auditeurs en donnant des exemples d'émissions à venir,
une sorte d'avant-goût, un teaser,
voilà,
quelque chose
c'est
comme ça,
les thématiques en tout cas qui ouais, nous sont parues apparu intéressante pour ouais, les prochaines émissions.
Dans l'appel de la forêt, il y a appel. Donc on appelle en fait toutes les bonnes volontés, tous les gens qui veulent participer à ces débats. Hein. Donc n'hésitez pas à appeler Radio Vassivière, qui relayera bien sûr les messages auprès de toi, Hélène, et de moi, donc Laurent. Voilà, pour reprendre un petit peu cette liste sans que ce soit fastidieux, on sait très bien qu'il y a de nombreux mouvements citoyens qui se sont créés autour de forêts qu'on espère vivantes, avec même donc des mouvements locaux, voire nationaux. Donc voilà, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de témoignages à aller chercher. Donc bienvenue à tous ceux qui se mobilisent et qui sentent que la question forestière les touche, même quand on n'est pas propriétaire forestier.
Alors j'en parlais juste avant, les différents modes de gestion forestière, ça peut aussi tout à fait faire l'objet d'émissions. Et puis la discussion entre ces différents modes de gestion, finalement, un mode de gestion souvent ne s'applique pas à une forêt, mais souvent c'est des gestions qui se succèdent en fonction aussi des choix des propriétaires ou de l'évolution de la filière actuelle. Et tous ces modes de gestion, voilà, ils sont intéressants à connaître pour pouvoir, rien que dans le paysage par exemple, observer et pouvoir se dire, ok, là on a tel type de gestion qui est en application, et qu'est-ce que ça veut dire comme impact sur la forêt et sur le milieu forestier.
Exact. Et également, prendre en compte justement la notion de terroir, de territoire, c'est-à-dire que on peut avoir en fait une forêt riche à un endroit parce que le sol est favorable, parce que l'exposition est favorable, et un kilomètre ou deux kilomètres plus loin, de pas du tout avoir les mêmes types de résultats. Donc on a besoin aussi de comprendre tout le système biologique et toute sa complexité, mais qui fait la richesse de cette vie en forêt. Donc on aura aussi bien sûr l'intervention, on espère, de scientifiques, de naturalistes, de gens qui ont une approche bien globale et biologique, je veux dire, du vivant forestier.
Aux antipodes de cette vision-là de la forêt, il y a la question de la filière bois, donc cette méga structure, ou en tout cas cette image de l'économie appliquée à la forêt, qui est très présente sur le territoire et qui regroupe tout un panel d'acteurs qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais qui en tout cas, il est vraiment intéressant d'aller décortiquer pour savoir qui intervient à quel moment dans la chaîne de la production de bois localement.
Oui, n'oublions pas que c'est le a priori le premier ou le deuxième employeur au niveau régional, donc l'impact est important au niveau économique et social, donc c'est à prendre en compte et essayer de comprendre où se situe la valeur, parce que c'est bien d'exploiter des bois, d'abattre quelques arbres bien sûr et faire en sorte que on puisse les scier. Donc ça, on sait faire, mais c'est au-delà, en fait. Il y a toute cette filière, en fait, tout ce qui est valeur ajoutée, qui, d'après ce que j'ai pu comprendre et les comparaisons avec d'autres régions ou d'autres pays, ne place pas notre montagne limousine en haut de l'échelle des valeurs.
La forêt, c'est aussi quelque chose qui peut être perçu comme un lieu d'éducation. Et on a aussi l'envie d'aller à la rencontre des personnes qui l'aperçoivent comme telle. Donc d'aller donner le micro à des personnes qui expérimentent des manières de faire de l'éducation en forêt, soit par la sensibilisation des enfants, soit par la sensibilisation d'autres types de populations qui ont à grandir grâce à la forêt.
Bien sûr. La forêt pédagogique, on va dire. Et ça, on sent qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Et c'est vraiment appréciable parce que, évidemment, avec les enfants ou les plus grands enfants, toi donc, qui te formes, bon, moi qui essaye de faire certaines choses aussi en forêt, on comprend mieux. Et cette pédagogie est à la base de ce qui va en fait nous diriger vers tel type d'action ou pas d'action, en fait. Bien sûr, cette pédagogie, on aura forcément, j'espère, des témoignages qui seront importants pour cette émission.
On s'est dit également qu'on pouvait faire quelques émissions sur la thématique de la forêt comestible, donc la forêt comme lieu de subsistance. En forêt, on peut trouver tout un tas d'éléments qui nous permettent de subvenir à nos besoins, que ce soit le bois de chauffage, les baies, les champignons.
Les champignons,
tout
oui.
Simplement, tout simplement aussi une subsistance émotionnelle, un apaisement. Donc voilà, aussi une subsistance morale.
Ouais, c'est très important. Bon, je crois que là-dessus, si on a, avec un petit peu de sensibilité, on sait très bien que c'est en forêt qu'on se sent le mieux. En tous les cas, forêt comme un refuge où on peut être tranquille la plupart du temps.
La forêt, c'est pas seulement un état actuel, c'est aussi une évolution. Donc, revenir sur l'histoire de la forêt limousine à partir du 19e siècle, parce qu'ici, on a une forêt qui a une histoire relativement récente et on n'en a pas forcément conscience facilement, puisque ici, quand on regarde les paysages, en fait, on a en tout cas des arbres, on en voit un peu partout. Du coup, on a du mal à imaginer qu'il n'y a pas si longtemps, la forêt était assez absente du territoire. Et donc, imaginer un avenir enviable aux forêts du territoire, c'est important de retracer son histoire et de savoir d'où elle vient et comment elle s'inscrit ou elle s'est inscrite dans le paysage d'ici.
Et c'est vrai que si on compare les photos des années 50 avec celles qu'on prend aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait au PNR à ce niveau-là. On voit bien qu'on ne vivait pas avec le même environnement il y a 50, 60, 80 ans, en effet. Et donc, c'est à la fois donc un espace géographique, mais bien sûr, il y a toute cette histoire donc, à relayer. Et je pense que là, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui auront sûrement à cœur de témoigner aussi.
Et cette évolution de la forêt dans le temps, elle a aussi été créée, dessinée par des politiques forestières. Soit des politiques nationales, soit des politiques plus locales aussi, qui nous semble important d'avoir en tête pour comprendre l'évolution forestière et pourquoi est-ce que elle est dessinée de telle manière aujourd'hui.
C'est très important. Je pense l'impact, on le voit ici autour de nous. Les politiques sont encore en train de se faire. On a des plans de relance au niveau national. Bon, donc. Voilà, c'est une question politique. On a des élus qui parfois en connaissent un petit peu et puis des fois pas du tout. Mais voilà, ceux qui en tous les cas ne le connaissent pas s'en remettent à des gens qui ont la connaissance. Donc voilà, je pense qu'il sera bon aussi de faire en sorte que certaines personnes politiques qui ont un pouvoir de décision locale, voire nationale, puisse s'exprimer. Je crois que c'est indispensable, et le faire justement avec tous les éléments qu'on connaît, c'est-à-dire pas juste une gestion à 10-15 ans, qui est relativement court terme. On a besoin de voir plus loin, même si c'est parfois difficile à imaginer.
Et même si on a dit qu'on s'intéressait avant tout et essentiellement à la forêt sur le territoire de la montagne Limousine, on pense, enfin en tout cas on s'est dit qu'il y avait des exemples inspirants ailleurs et que ce serait intéressant de les documenter ou en tout cas de se pencher dessus pour aussi amener la connaissance localement. Et est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns pour nous donner envie ?
Oui, j'ai écouté Ernst Zürchner, là, qui est donc un expert forestier en Suisse, qui en parle très bien de façon simple et qui paraît évidente, c'est-à-dire que la forêt, elle vit par elle-même. Elle offre beaucoup à l'homme et l'homme a juste besoin de prélever, de laisser ensuite la forêt s'exprimer. Alors c'est simple en quelques mots, après sur le terrain c'est autre chose, mais il est évident qu'en Suisse ou dans des grandes parties de l'Allemagne, voire même en Wallonie, il est maintenant interdit de pratiquer des coupes rases sur des grandes surfaces comme celles qu'on peut voir ici. Voilà, donc ce sont des exemples inspirants. Il y a aussi ce qui se passe au Morvan, qui est un massif un petit peu similaire au nôtre, où des évolutions politiques sont aussi en train de se mettre en place. Donc je pense que les auditeurs de Radio Vassivière ont, j'espère, aussi envie d'être informés de ce que les politiques prévoient ou ne prévoient pas, en tous les cas, ce qui est sur la table actuellement.
Enfin, peut-être pour citer une dernière thématique, c'est celle des services écosystémiques. Alors, c'est un concept un peu barbare, mais qui exprime en fait tout ce que la forêt peut nous donner pour vivre, quoi.
Les fameux services, c'est-à-dire si on a de l'eau de bonne qualité, c'est parce qu'elle est filtrée par la forêt. Si on a des sols de qualité, c'est parce que la forêt les a enrichis. Les arbres en tous les cas, et que si on a la chance d'avoir un peu plus d'oxygène près d'une forêt, c'est parce que la forêt est aussi un puits de carbone. Voilà, donc ça c'est les éléments de base, sauf que quand ces services ne sont pas rendus par la forêt, eh ben, on est bien embêtés, nous, êtres humains, avec le traitement des eaux, avec des sols qu'il faut enrichir de façon chimique. Enfin, voilà, il y a des tas de choses que la forêt nous donne gratuitement et dont on n'a pas forcément toujours conscience. Donc, ni toi ni moi ne sommes vraiment experts dans ces domaines-là. Donc, on va aller chercher la parole de gens compétents qui habitent ici ou un petit peu plus loin. Et qui pourront nous éclairer également sur tout cet aspect vital de la forêt.
Tu peux nous dire un petit peu en quoi consistera la prochaine émission, sur quoi elle portera, quelle sera la thématique, parce qu'on a déjà une prochaine émission en tête.
Oui, on y réfléchit. C'est notre émission zéro aujourd'hui. Et donc on se lance et je remercie en tous les cas Radio Vassivière de nous faire confiance. Parce que on a beaucoup de choses à dire. On espère inviter beaucoup de gens. On n'a pas encore une date fixée, mais on espère se donner rendez-vous le plus souvent possible, au moins une fois par mois. parfois plus, parfois moins. C'est difficile encore de donner un créneau. En tous les cas, on vous tiendra au courant, bien sûr. Et voilà, donc à la fin du mois, le 27 novembre, il y a donc une des nombreuses initiatives qu'il y a sur le plateau. Il y a un chantier participatif donc, qui aura lieu à Chessou, dans la forêt, qu'une association dont je fais partie, qui s'appelle L'Aubray, a racheté, et a surtout évité une coupe rase, parce qu'il y avait 5 ou 6 hectares qui devaient être coupés sur une très jolie colline, avec un peuplement plutôt mélangé, quelques parties plantées, mais voilà, disons quand même une forêt qui n'est pas évidemment la plus belle en termes de valeur, mais qui a une diversité intéressante, des points d'eau, qui a voilà, et donc qui a vocation à être tournée vers la gestion pédagogique auprès des enfants d'abord, et puis des plus grands, pour justement marquer les arbres que l'on veut prélever, et avoir en fait une idée de ce que la forêt pour cette petite parcelle pourrait ressembler. Donc on a la chance d'avoir des gestionnaires forestiers qui nous accompagnent, donc des gens très compétents. Et donc voilà, ça va être en fait un lieu de rencontre, une matinée où on va en fait pratiquer quelques travaux forestiers qui sont abordables pour tous et tous également très sécurisés. Un temps de partage avec un pique-nique, voilà, des châtaignes à griller, des choses, voilà, s'il fait beau, on sera très heureux de se mettre autour d'un feu, où on verra de toute manière en fonction de la température, et on espère qu'il fera beau ce jour-là. Et on terminera l'après-midi justement par une visite naturaliste avec par exemple une partie mycologique avec les champignons qu'on pourra donc encore voir dans quelques semaines, on l'espère, et arriver à comprendre un petit peu ce qui se passe en forêt, toute cette vie végétale et également animale.
Et donc ça, ce sera le samedi 27...
Dimanche 27
novembre. Le dimanche 27 novembre à Chessou.
Voilà, à partir de 9h. Donc super. Voilà, tous ceux qui sont intéressés, bien sûr, qui n'hésitent pas donc à poser les questions, et on pourra vous envoyer une invitation avec grand plaisir.
Eh bien, à bientôt pour cette prochaine émission sur ce chantier participatif à Chessou. C'était
L'appel
de la forêt
avec Hélène
et Laurent sur Radio Vassivière.